Pourrions voir ce matin, en toute simplicité, quelques pensées sur ce texte, et en toute simplicité et en toute humilité. Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui dis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Je crois que le Seigneur, ce matin, nous dit aussi, « Va, et toi, fais de même. » Cette parabole, on l'a appelée la parabole du bon samaritain. Cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, ils avaient emprunté une route qui avait été, en principe, construite par les Romains. Et cette route a serpenté dans la montagne et elle descendait bien sûr vers Jéricho. Et une route assez déserte. À l'époque, il y avait beaucoup de brigands qui attaquaient les voyageurs. Elle avait été surnommée d'ailleurs la route sanglante. Eh bien, alors ce pauvre homme, il avait pris ce chemin qui descendait vers Jéricho. Pour dire que c'est une image à côté de laquelle on ne peut pas passer sans y réfléchir. Car Jérusalem, c'est la ville sainte, la ville du grand roi. Elle contient ce concept de paix. Il y a le temple. Par contre, Jéricho, voilà, c'était la ville des palmiers. C'était la ville basse, vous savez, moins de 240 mètres, je crois, en dessous du niveau de la mer, Jéricho. C'est pas évident, elle avait une histoire qui n'était pas terrible. Avant la conquête par Israël, les hommes s'y livraient depuis des siècles le culte de la lune. C'était Jéricho, il y avait une grosse malédiction qui s'y attachait pour celui qui allait d'ailleurs la rebâtir. Alors, Jéricho, il y avait beaucoup de sources d'eau, des sources d'eau froide, sources d'eau tiède. Il y avait aussi beaucoup de sources de plaisir. C'était la ville des senteurs, en quelque sorte. C'était l'image d'un monde matériel, un monde d'essence. Un homme descend. Bon, ça, je me dis, un homme descendait, j'ai une impression de solitude. Un homme, il était tout seul. Dans la Bible, il y a des exemples à ne pas suivre, qui sont donnés pour que nous ne les suivions pas. Il y a des exemples qui nous sont donnés pour que nous les suivions. Alors moi, ça me fait penser tout de suite à Actes chapitre 3, et le début de cette réunion m'a confirmé cette pensée. Pierre et Jean descendaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Alors là, voyons qu'il n'y a pas de solitude. Il y a un homme d'âge mûr, puis un petit jeune. Ils sont, on pourrait dire, un cœur et une âme, comme l'Église primitive l'était d'ailleurs. Hein. Ils sont dans un même esprit. En quelque sorte, la prière sacerdotale est exaucée. Qu'ils soient un, comme nous sommes un, Seigneur avait demandé. Et bien sûr, il y avait l'exaucement de la prière de notre Seigneur. Aujourd'hui, il existe des gens qui voudraient faire des églises de vieux et des églises de jeunes. Eh bien non. Eh bien non. Il n'y a qu'une seule église, l'église n'est pas un club. Il n'y a que l'église de Jésus-Christ. Les générations sont appelées à marcher d'un même pas, unis dans un même amour, dans un même esprit, au service d'un même Seigneur. Ça a été évoqué ce matin, ça me renforce, ça me donne de l'assurance. Il n'y a qu'une église, il n'y a pas trois chemins. Le Seigneur n'a pas enseigné qu'il y avait trois chemins, il a enseigné qu'il y en avait deux. Il y avait ce chemin large et spacieux qui descend vers l'enfer, et un chemin étroit qui monte réellement vers le ciel. L'Église, elle est sur le chemin étroit. Elle est sur le chemin étroit. Descendre, pour un chrétien, cela peut représenter bien sûr un refroidissement spirituel. Une tiédeur qui s'installe. Mais moi, je suis suffoqué parce que on est né un peu avant la guerre. Quand on voit le monde, comment il descend aujourd'hui, c'est effrayant. C'est effrayant de voir la déchéance de ce monde. Ah, on n'en était pas au même point après la guerre, quand même. Vous vous rendez compte? Que le Seigneur nous fasse grâce. Ce monde, on pourrait dire qu'il descend, mais pas en marchant, il descend en courant. Il descend en courant vers la gêne. Alors nous sommes là devant l'histoire de l'être humain, devant tous ses mauvais choix. Vous savez, dans le jardin d'Éden, ça a commencé, quoi. La femme vit que l'arbre était bon. Hein? Le péché est entré dans le monde à l'origine par un regard. Par un regard. Elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, il en mangea. Ça a été le début. Ça consistait à préférer ce qui plaît à la chair, à rechercher la jouissance. L'orgueil de la vie s'est imposé, il a pris la place, bien sûr, de l'humilité, de la soumission à la pensée de Dieu. C'est un Jean 2,16 qui nous résume cela de cette manière. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Ça vaut le coup de faire la volonté de Dieu. Amen. Alors le monde passe, mais on pourrait peut-être mettre deux textes en parallèle, parce que le monde, dans la parole de Dieu, par exemple, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez bien sûr tous ces passages par cœur, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, ne périsse point même. Et 1 Jean 2,15, on va les mettre en parallèle les deux, mais « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Alors, ça pourrait paraître contradictoire. Mais il y a un abîme entre aimer le monde pour le sauver, comme Dieu l'a fait par le don de Jésus-Christ, et aimer le monde pour partager ses mauvais désirs, ses passions, son incrédulité, son esprit charnel et corrompu. Bien sûr qu'il y a un abîme avec tout ce qui pollue les humains depuis la chute. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous avons besoin du secours du Seigneur. Nous vivons au milieu d'une génération qui s'enfonce dans le mal. Alors, le résultat, bien sûr, du péché, il peut être imagé dans cette parabole par l'état du voyageur qui n'est pas très reluisant, dépouillé de ses vêtements, nu, couvert de blessures, à demi-mort. Eh bien, c'est l'état spirituel, finalement, des gens de ce monde qui sont sans foi, sans espérance, et malheureusement aussi, bien sûr, de certains qui se disent chrétiens. C'est bien à l'Odyssée que Jésus a dit, Apocalypse 3, hein, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Hein » C'est Chouraki qui a traduit « Tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, humilié, aveugle et nu. » Alors l'homme a été créé, corps, âme, esprit. Mais à cause du péché, son esprit est en état de mort. La relation avec son créateur est interrompue. Au pécheur perdu, il ne reste que la vie du corps et la vie de l'âme pour l'instant. Il est donc à demi-mort. Bon, tout ça, vous le savez, c'est bien. Je vous le répète, quoi. Bien sûr. C'est ce que Paul a écrit aux chrétiens d'Éphèse. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Grâce soit rendue à Dieu. Par Jésus-Christ, nous avons reçu le pardon de nos péchés, nous avons reçu la vie éternelle, la vie véritable. L'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Hein, il ne faut pas laisser à l'adversaire ni au temps de nous manger nos certitudes. Nous avons besoin de rester fermes. Parce que le temps n'est pas toujours notre allié, on a besoin vraiment de la grâce de Dieu. Hein. Eh oui, on est humain. Hein. Que le Seigneur nous aide et nous fasse grâce. Un sacrificateur qui, par hasard, fortuitement, par accident, accidentellement, passait par là, descendait par le même chemin. Bah, on peut penser que celui-là, je ne sais pas, enfin, on peut faire des suppositions. Hein. Peut-être il avait accompli son service au temple et puis après il s'en allait. Il s'en allait peut-être, on ne sait pas, hein, pour satisfaire les convoitises de son cœur vers Jéricho. Hein, c'est une supposition, hein, on ne va pas le condamner, on ne sait pas. Il voit l'homme dépouillé. Il voit l'homme blessé. Il passe outre. Ce que ses yeux voient, de la souffrance de son prochain ne touche pas son cœur. Il y a un Lévite qui arrive là. Alors celui-là, on ne sait pas. Passe par là. Je ne sais pas s'il monte à Jérusalem ou s'il va vers Jéricho. Ça, c'est pas écrit. Hein. Il est entre les deux, peut-être que c'est un tiède, je ne sais pas. Hein, il n'a pas pris position, mais il voit l'homme blessé, dépouillé de tout, en état presque de mort. Ce que ses yeux voient de la souffrance du prochain ne touche pas son cœur. Il continue, il passe. Alors, Jésus fait le constat que le désir des hommes religieux de cette époque était d'être admiré. Admiré dans les rues, admiré dans les synagogues. Matthieu 23, il dit « Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. » Savons-nous que là où nous sommes, le Seigneur nous voit, 24 heures sur 24. Amen. Nous le savons, ça, gloire au Seigneur. Hein. Mais sur ce chemin désert, bien sûr, il n'y avait personne pour les voir, pour voir leur bonne action. Donc, ce n'était pas grave, ils pensaient... Ils n'avaient pas la crainte de Dieu, ils ne se rendaient pas compte. Hein. Et la pratique de leur religion était faite d'apparence. Et Dieu n'y trouvait pas, bien sûr, son compte. Hein. D'ailleurs, comment on pourrait dire ces conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron, qui avalaient le chameau, auraient-ils pu avoir une bonne vision des choses ? Hein ? Une bonne vision qui soit en relation avec un cœur miséricordieux, quoi. Le drame aujourd'hui, c'est quand il y a des cœurs sans amour, des cœurs où Jésus n'habite pas, ou quand il y a une foi, mais qu'il n'y a pas d'acte. Ça, c'est notre problème, quelquefois. On a la foi, mais il n'y a pas les actes. Toujours qui vont avec. On peut exprimer beaucoup de belles choses. Que le Seigneur nous donne que ce soit vraiment vrai. 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 C'est dommage quelquefois quand les yeux sont mouillés devant un écran de télévision ou ailleurs, je ne sais pas pourquoi, devant un écran quel qu'il soit, et puis qu'il soit sec devant la réalité de la misère humaine. Ça, c'est dommage. Hein, quand il n'y a pas de relation, quelque sorte, entre les yeux et le cœur dans la vie courante, dans la vie de tous les jours. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de l'homme et l'ayant vu, il fut ému de compassion. Oh, vous connaissez bien cette citation, on voit bien qu'avec le cœur... Antoine de Saint-Exupéry, et puis on a dit, quelqu'un a dit aussi, les yeux sont les fenêtres de l'âme. Hein, Jésus, dans cette parabole, nous démontre qu'il y a un lien qui doit exister entre les yeux et le cœur. Alors les Samaritains, bien sûr, ils étaient méprisés, hein. Ils étaient haïs des Juifs, qui les considéraient comme des hérétiques. C'est vrai qu'au 8e siècle, avant Jésus-Christ, Samarie, bien sûr, a été détruite. Il y a eu un repeuplement avec des étrangers. Ça avait produit, bien sûr, un mélange de populations, de religions, etc. Ce Samaritain, il aurait eu toutes les raisons de se détourner du blessé du chemin. Bien sûr, il était haï des Juifs à l'époque, mais... Il est touché dans son cœur. Hein. Il ne s'égare pas, lui, dans de vaines lucubrations religieuses. Qui est mon prochain ? Jésus le révèle tout simplement dans une parabole, alors que peut-être les docteurs de la loi pouvaient passer des journées entières à discuter, à argoter sur le sujet. Le Samaritain l'a mieux à faire, ses yeux ont vu, son cœur miséricordieux a été touché. Il est le prochain du blessé du chemin. Ses entrailles se sont émues. Elles sont émues pour cet homme. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'obstacle pour lui entre ses yeux et son cœur. Il est ému jusqu'aux entrailles. Il n'a pas qu'un vernis religieux, il n'a pas qu'une apparence. Il pense à secourir, à s'approcher, à soigner les plaies du blessé du chemin. Comme c'est beau aux yeux du Seigneur. Hein? Comme c'est beau aux yeux du Seigneur et combien il se réjouit lorsqu'il peut contempler un cœur qui se brise devant la souffrance du prochain. Même la souffrance d'un inconnu. Même la souffrance d'un inconnu. À la lecture de l'Évangile, on voit combien Jésus lui était ému de compassion. Hein, vous l'avez souvent lu dans la parole de Dieu. Dans cette parabole, on pourrait dire que d'une certaine manière, Jésus nous ouvre son cœur, lui qu'on a taxé, traité de Samaritain. Il n'y avait pas d'obstacle entre ses yeux et son cœur. Il était ému jusqu'à ses entrailles. Il n'est pas changé. Il est toujours le même. Nos misères ne le laissent pas indifférent. Il nous aime d'un amour éternel, infini, merveilleux. Alors, on pourrait prendre dans la parole de Dieu juste quelques exemples, bien sûr, où il est parlé de Jésus qui est ému. Non, c'est Matthieu 9, il voit une foule languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Les mus de compassion, il va appeler les 12 et les qualifier pour être des bergers. Matthieu 14, il sort de la barque, il y a une grande foule, il est ému de compassion pour elle, il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades. Amen. En fait, Josiane, elle n'a pas ressenti de douleur cette semaine. Bon, la tumeur est toujours là.
Oui. Et nous avons demandé la grâce.
Merci Seigneur. Merci frère de votre activité aussi.
C'est le Seigneur qui touche.
Alors, Matthieu 15, à la vue d'une foule qui n'avait pas à manger, il est à nouveau ému de compassion, il les nourrit avec quelques pains et quelques poissons. Matthieu 20, il est ému de compassion devant deux aveugles qui crient à lui, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Il touche leurs yeux, il recouvre la vue et le suivent. Luc, chapitre 7, dans le village de Naïn en Galilée, là il rencontre un cortège funèbre, une pauvre veuve qui porte son fils unique en terre. Il est pris aux entrailles. Il n'est pas indifférent, loin s'en faut. Et remarquez qu'il console le cœur de la mère. Avant de ressusciter son fils. D'abord, il s'occupe du cœur de la mère. Seigneur, il avait un cœur miséricordieux et compatissant. Il a vu la douleur de cette femme. On voit que Jésus était rempli d'amour, bien sûr. Il s'approchait des affligés, en quelque sorte, pour verser l'huile et le vin sur leurs blessures. C'est ce qu'a fait le Samaritain. Bien sûr, nous savons que ce mélange d'huile d'olive et de vin était employé à l'époque. On n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, mais il était employé pour purifier, adoucir les plaies. Nous savons que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit, bien sûr, du Consolateur qui apporte la douceur, la consolation et le sang de Jésus qui purifie, bien sûr, c'est tout ça, vous le savez. Combien il faudrait que l'huile et le vin soient versés sur les cœurs de cette génération. Il faut l'action du Saint-Esprit et la foi en Jésus, en son sacrifice à Golgotha. Hein, il faut que le sang de Christ efface les péchés, mais il faut que les cœurs soient repentants. Et ça, c'est aussi l'action de la parole de l'Esprit, et c'est notre part d'apporter la parole dans ce monde. Ils nous embêtent avec leurs bouchons, hein, pratiquement. Alors, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Bah, user de miséricorde. User de miséricorde, ça va nous conduire bien souvent à renoncer à nos privilèges. Ah oui, si on veut renoncer à rien, ça va pas marcher. Hein. Le Samaritain, il se retrouve pédibus comme jambis, mais il a mis sur sa propre monture. Eh bien, bien sûr. Hein, il continue à pied. Et nous remarquons qu'arrivé à l'hôtellerie, il continue à prendre soin du blessé, du chemin. Ah oui, ça c'est aussi, bien sûr, remarquable. Je me souviens, dans une assemblée, il y avait un brave frère. Oh, il faisait des prières à décrocher le ciel. « Seigneur, je ferai tout ce que tu voudras. Envoie-moi où tu veux. » C'était beau, quoi. C'est vrai que, bon, c'était un brave homme, hein. C'est sûr qu'il devait être sincère dans son expression, j'en doute pas. Alors, un jour, on avait un petit problème, on lui a demandé s'il pouvait pas aller dans la campagne chercher quelques gamins pour l'école du dimanche. Oh, il a dit non, je peux pas, ça va salir ma voiture. Ah, il faut renoncer à beaucoup de choses si on veut travailler pour le Seigneur, si on veut user de miséricorde aussi, hein, bien sûr. Il faut renoncer à soi-même. Hein. C'est ce que le témoin de Jésus-Christ qui veut être un reflet, le témoin qui veut être un reflet de Jésus-Christ, un reflet de Christ, il ne le sera que dans la mesure vraiment où il se sera engagé sur le chemin du renoncement à lui-même. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Il faut, comme le Seigneur l'a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Charger de sa croix, c'est pour le Seigneur, la croix, c'est la mort pour lui. Hein. C'était clair dans sa pensée. Hein. Nous, on a extrapolé là-dessus, bien sûr, on a fait des choses. Mais dans la pensée du Seigneur, pensée première, c'était la pensée de la mort, la croix. La mort à soi-même, bien sûr. Alors, il faut bien que celui qui veut exercer la miséricorde s'imagine qu'il ne va pas être couronné de laurier ici-bas. S'il s'imagine ça, il est dans l'erreur. Il risque d'être déçu. Et d'ailleurs, servir le Seigneur sans mort à soi-même, ça conduit à bien des contrariétés et à des blessures d'ego. Croyez-moi. La nature humaine ingrate ne répond pas toujours au bienfait du prochain. Nous le savons. Alors le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et lui dit « Aie soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Alors c'est vrai que le Samaritain aurait pu déposer le blessé à l'hôtellerie et puis dit « Maintenant, débrouille-toi mon gars, hein. Je t'ai secouru, j'ai déjà assez fait pour toi, tout va bien. » Mais vous voyez, le cœur miséricordieux, il va au-delà du moment présent. Il pense à l'avenir. Il pense à l'avenir du blessé du chemin, du prochain. Il se préoccupe de ces choses. Et il s'engage, même si ça lui coûte quelque chose. Alors je crois que nous avons besoin de garder cette vision. Quand le Seigneur nous fait la grâce de témoigner à une âme et qu'elle vient à l'église, c'est pas fini pour nous. Hein. C'est là que commence le travail. Que le Seigneur nous aide par son esprit, nous donne cette sagesse. Mais il y a une autre pensée, bien sûr, dans ce texte. Hein, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Moi, je pense au retour du Seigneur. Ah oui. Hein? Je pense au retour du Seigneur. Il y a la pensée peut-être de ce retour prochain, là-haut, nous aurons notre récompense. Hein? Là-haut, nous aurons notre récompense. Peut-être même quelquefois pour un petit verre d'eau froide, comme le Seigneur l'a dit. Hein? Alors finalement, le Samaritain a pratiqué la miséricorde comme s'il s'agissait de son frère en la chair, comme s'il s'agissait d'un ami intime. Non, c'était son prochain. Amen. Ça avait une valeur aussi, hein, à ne pas négliger. Il a soigné le blessé comme un berger aurait eu soin de sa brebis. C'est une image, bien sûr. Alors, que nous dit la parole de Dieu ? Ainsi donc, Colossiens 3, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ouais, puis Jésus nous a dit quelque chose là. Aïe. Luc 6, soyez donc miséricordieux. Bon, jusque-là, ça va. Mais après, il dit, comme votre Père est miséricordieux. Oula. Vous avez un modèle là qui est un modèle parfait. Et ça, on n'y arrivera pas sans le secours de l'Esprit. Hein. Vous avez besoin de la force que le Seigneur nous donne. Hein. Alors, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, bien sûr, c'est la loi. Hein. C'est la loi. Mais le Seigneur nous a dit autre chose aussi. Il nous a dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Comme. Alors là, la marche elle est haute, il a donné sa vie. Il s'est offert à la croix pour nous. Comme. Eh bien, là c'est pareil. Il faut que le Saint-Esprit répande l'amour de Dieu dans nos cœurs pour que nous soyons rendus capables d'aimer comme le Seigneur nous a aimés. Je pense à. J'ai envie de faire ces prières au Seigneur. Au Seigneur, donne-moi un cœur qui ressemble au tien. Seigneur, donne-moi un cœur qui ressemble au tien. Que je puisse voir comme tu vois. Que je puisse voir comme tu vois. Comme toi. Que je sois relevé au fond de mes entrailles devant la misère humaine. Cette misère qui est physique. Moral, spirituel. Amen. Afin que je puisse manifester non pas quelques sentiments de pitié, mais que je puisse vraiment manifester ton amour envers mes frères et mes sœurs et envers tous ceux qui périssent loin de toi. Que le Seigneur nous fasse grâce.
Amen.
Amen. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te Jésus.